Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, un Vivante Église spécial à l'occasion des 700 ans de la canonisation de Saint Thomas d'Aquin. Pendant 3 ans, 2023, 2024 et 2025, seront commémorées les grandes dates de la vie d'un des plus grands théologiens de l'histoire de l'Église. Dans une heure, à 10h, vous retrouverez une messe en direct du couvent des Jacobins en hommage, en honneur à la figure de Saint Thomas d'Aquin. Une messe commentée par notre journaliste Isabelle Duché. Les reliques de Saint Thomas d'Aquin reposent, elles, au couvent des Jacobins à Toulouse. Sa directrice Marie Bonnabel est mon invitée. Est-ce que pour débuter, vous pouvez nous présenter déjà d'un point de vue assez géographique le couvent des Jacobins ?
Le couvent des Jacobins est situé au centre-ville de Toulouse, à deux pas de la place du Capitole, très exactement entre la Garonne et la place du Capitole, très proche de la place Saint-Pierre et de la place de la Dorade. On ne le voit pas forcément très très bien depuis la rue, parce qu'il est entièrement englobé dans le quartier et cerné d'immeubles.
Alors le couvent des Jacobins, il y a plusieurs bâtiments, est-ce que vous pouvez nous les présenter ?
Alors le couvent des Jacobins était très vaste à l'époque de sa construction au Moyen-Âge. Il a beaucoup réduit en superficie depuis, mais il nous reste néanmoins de belles surfaces avec évidemment la très grande église, mais aussi un jardin entouré d'un cloître et puis diverses salles qui se répartissent autour de ce cloître. La salle capitulaire qui est la salle bien connue des Toulousains pour les concerts de piano jacobin, une très belle chapelle ornée de peinture murale du XIVe siècle, la chapelle Saint-Antonin, et un très grand réfectoire, probablement le plus grand réfectoire du Midi aujourd'hui conservé, dans lequel les frères prenaient leur repas.
Pour la partie historique de ce couvent des Jacobins, quand est-ce qu'il a été construit, par qui, pour commencer ?
Alors le couvent des Jacobins, il est construit à partir des années 1230 par l'ordre des frères prêcheurs, qui est plus connu sous le nom de ordre dominicain, puisque le fondateur de l'ordre est Saint Dominique. Les dominicains sont installés à Toulouse depuis le début du XIIIe siècle, mais le couvent que nous connaissons, sa construction ne démarre qu'en 1230. Elle va s'étaler pendant un petit peu plus d'un siècle, puisque la fin de la construction, enfin en tout cas des principales salles, se terminera en 1391.
On peut l'affilier à quel style architectural ce couvent des Jacobins ?
Alors, le couvent des Jacobins, ce que nous voyons aujourd'hui, en particulier l'église, on considère traditionnellement que c'est de style gothique. On dit parfois de style gothique méridional, même si c'est une utilisation un peu impropre du terme. Ça veut dire en fait que c'est une très grande église à nef unique, sans avoir de bas-côté, comme par exemple ce qu'on peut observer à Saint-Sernin. Mais en même temps, l'église en particulier déroge un peu à ce qu'on connaît du style gothique, parce qu'elle répond à une particularité de l'ordre des dominicains, c'est d'avoir une double nef, une nef côté nord pour les frères, une nef côté sud pour les fidèles. Et du coup, ce plan à double nef place au milieu de l'église une grande file de colonnes et tout au bout, ce qui est connu sous le nom de palmier, c'est-à-dire un voûtement très particulier dans le style gothique, mais avec des adaptations techniques pour s'adapter à ce plan en double nef.
Si les visiteurs doivent regardez particulièrement une partie du couvent des Jacobins. Alors, il est majestueux, mais quelles sont les spécificités vraiment ?
Alors, moi, je vais vous dire ce que j'aime particulièrement dans le couvent des Jacobins. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut que les visiteurs regardent, mais moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le cloître. C'est la sérénité de ce cloître, c'est sa sobriété. Pas de chapiteau historié, comme on peut en voir, par exemple, à Moissac ou comme on en avait autrefois à la Dorade. C'est très simple, très sobre. Ça répond tout à fait à l'idéal de pauvreté de l'ordre mendiant qui est l'ordre des Dominicains. Et néanmoins, c'est d'une grande beauté, d'une grande finesse, beaucoup d'élégance, tout en gardant de la sobriété.
Vous le disiez, c'est un berceau important pour les Dominicains. C'est l'église des Jacobins est un berceau important pour les Dominicains. C'est juste parce qu'il a été créé par Saint Dominique ou il y a une autre histoire avec les Dominicains ?
Alors, on peut dire en quelque sorte que l'ordre des dominicains, il est né à Toulouse, puisque les frères prêcheurs, les dominicains, se créent dans ce lieu particulier, dans ce contexte historique particulier, qui est celui de la lutte contre l'hérésie, les hérétiques qu'on appelle communément les cathares. L'ordre des dominicains, il est né, il a été voulu par Saint Dominique, par le pape, par l'évêque, il a été soutenu pour lutter contre ces hérétiques. D'abord par le dialogue, par la prédication, puisque c'est la mission première de nos frères dominicains, et puis après par l'attribution des missions d'inquisition à l'ordre des dominicains. Donc ce contexte très particulier du début du XIIIe siècle à Toulouse, c'est la naissance de l'ordre des dominicains. Donc on peut considérer en quelque sorte que Toulouse est le berceau de l'ordre. C'est pour ça qu'il y a une importance particulière, une histoire particulière entre la ville et l'ordre des frères prêcheurs.
Aujourd'hui, le couvent des Dominicains, des Jacobins, il sert à quoi ? C'est un lieu de culture et un lieu d'histoire. Qu'est-ce qui s'y vit ?
Alors, le couvent des Jacobins, il appartient à la mairie de Toulouse, avec toujours pour l'Église une affectation au culte. Donc, c'est la vocation première de l'Église. Les autres salles du couvent ont une vocation culturelle. C'est un lieu patrimonial qui est visité par de nombreux touristes, à peu près 365 000 visiteurs l'année dernière. Et puis, c'est un lieu qui propose une programmation culturelle avec des expositions, avec des animations pour les visiteurs, pour les enfants, pour les familles, pour les adultes, des visites thématiques, des concerts, bien évidemment aussi.
J'aimerais désormais qu'on parle de la question de Saint Thomas. En 1368, le pape Urbain V décide du transfert des restes de Saint Thomas d'Aquin au couvent des Jacobins. Pourquoi ce choix ?
Alors, c'est une histoire assez piquante, en fait, le choix de Thomas d'Aquin pour les Jacobins. Il faut savoir que Thomas d'Aquin n'est jamais venu à Toulouse. Pourtant, il a beaucoup, beaucoup voyagé au cours de sa vie. Mais Thomas d'Aquin, c'est un dominicain important, philosophe, docteur de l'Église, qui a en quelque sorte réconcilié la foi chrétienne avec la philosophie d'Aristote. Et donc, c'est une personnalité vraiment marquante, à la fois dans l'ordre des dominicains et dans l'Église en général. Et il se trouve que Dominique, le fondateur de l'ordre, est mort à Bologne et a été enterré à Bologne dans le couvent des Dominicains. Et bien évidemment que les Dominicains de Bologne n'avaient pas du tout l'intention de laisser les reliques du saint fondateur Dominique revenir à Toulouse. Pour autant, les Dominicains de Toulouse les réclamaient. Alors le pape, pour honorer la ville de Toulouse et le couvent des Dominicains de Toulouse, a accordé à ce couvent les reliques d'un autre dominicain, pas de Saint Dominique, mais d'un autre dominicain très important, très reconnu, qui sont les reliques de Thomas d'Aquin. Et c'est comme ça que les reliques de ce saint, qui n'était jamais venu à Toulouse, sont arrivées dans le couvent des Dominicains de Toulouse.
En 1369, 150 000 fidèles de Toulouse vont accompagner les reliques de Saint Thomas d'Aquin, jusqu'à l'église des Jacobins. Pourquoi il fédérait autant autour de lui ? Pourquoi un tel engouement ?
Alors, les reliques de le transfert des reliques de Thomas d'Aquin depuis l'Italie, où il était mort, jusqu'à Toulouse, au moment où le pape donne ses reliques au couvent des Jacobins, c'est vraiment tout à fait rocambolesque. Il faut savoir que, par exemple, il y a eu un faux convoi qui est parti en amont du petit groupe de frères qui transportaient, eux, les vraies reliques pour donner le change, en quelque sorte, et protéger les reliques. Et puis, lorsque les reliques arrivent à Toulouse, il y a un arrêt qui est fait un peu en amont de la ville. Et à ce moment-là, ça laisse le temps aux Toulousains de se regrouper. Les frères prêcheurs ont annoncé l'arrivée des reliques, ont prêché l'arrivée des reliques, ont expliqué qui était Thomas d'Aquin. Et ça explique effectivement cet immense cortège et cet engouement particulier des Toulousains à l'arrivée des reliques de Thomas d'Aquin.
Comment elles sont présentées, ces reliques de saint Thomas d'Aquin, au couvent des Jacobins ?
Alors aujourd'hui, les reliques de Thomas d'Aquin, elles sont présentées sous l'autel majeur du couvent, c'est-à-dire dans la nef nord dont je parlais tout à l'heure, la nef des frères. C'est un autel en pierre. Sous cet autel, il y a un espace qui est très facilement visible. Dans cet emplacement se trouve une chasse en bois doré qui est classée au titre des monuments historiques. Et à l'intérieur de cette chasse sont conservées les reliques de Thomas d'Aquin. D'une part, son crâne dans une boîte et d'autre part, les autres ossements dans une autre boîte.
Justement, par rapport à son crâne, il y a eu un transfert qui a été fait ?
Alors, au moment de la Révolution française, les Dominicains, voyant que les reliques sont potentiellement en danger, les transfèrent à Saint-Cernin. Et là, elles vont être conservées avec toutes les autres reliques nombreuses, pour ne pas dire innombrables, de Saint-Cernin pendant toute cette période-là. Et elles ne reviendront. Alors, le couvent des Jacobins subit des vicissitudes. Notamment, il va servir de caserne, d'écurie pendant toute une partie du XIXe siècle. Ensuite, il aura diverses vocations. Pour finalement être un peu, on pourrait dire, éclaté, c'est-à-dire que ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'église, les salles autour du cloître, le réfectoire, ça constitue pendant longtemps trois entités distinctes. Et finalement, tout ça n'est rassemblé grâce aux efforts d'un ancien conservateur, Maurice Prin, au milieu du XXe siècle, enfin à partir du milieu du XXe siècle. Tous ces éléments vont être rassemblés pour reconstituer en quelque sorte le couvent tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que l'église va être reconsacrée et que les reliques vont pouvoir revenir de Saint-Cernin au couvent des Jacobins à l'occasion d'une très belle et très grande cérémonie en 1974.
Et aujourd'hui, en 2023, ces reliques, elles vont faire le tour de la France pendant 2 ans.
Alors, les reliques vont... Une partie des reliques, le crâne uniquement, va quitter le couvent des Jacobins pour pouvoir voyager à l'initiative de l'ordre des frères prêcheurs, donc des frères dominicains, et être présentés effectivement au cours de 3 années de centenaire qui fêtent Thomas d'Aquin.
Vous avez parlé de ces 3 années de centenaire. Est-ce qu'il y a des manifestations spéciales qui vont être organisées au couvent des Jacobins ou simplement vous voyez là un moyen pour le public de connaître d'autant plus ce lieu où sont habituellement entreposées les reliques de Saint Thomas ?
Les Jacobins vont participer à ces centenaires en organisant, alors plutôt sur la fin, en 2025 en fait, une présentation de qui est Thomas d'Aquin en complément en quelque sorte de tout ce qui est fait à l'initiative de l'ordre des frères prêcheurs et qui est très riche, donc qui s'inscrit sur un registre un petit peu différent de ce qui sera proposé par l'ordre des frères prêcheurs. L'idée, c'est de rendre Thomas d'Aquin, qui est quand même philosophe, docteur de l'histoire, qui a abordé des concepts pas forcément simples et faciles à comprendre pour le grand public, donc d'essayer de l'aborder pour le faire partager, découvrir, comprendre à nos visiteurs. Et ce sera probablement l'occasion d'un grand multimédia que l'on présentera, un peu immersif, et que l'on présentera dans le réfectoire au cours de l'année 2025.
Une dernière question avant de clôturer. Quels sont les grands événements organisés aux Jacobins pour cette année 2023 ?
Alors, sur l'année 2023, sur un tout autre registre, nous allons accueillir les grands décors de l'Opéra du Capitole à partir du mois de mai. Il faut savoir que ce réfectoire, dans ses multiples usages que je décrivais tout à l'heure, a servi d'atelier pour la fabrication des grands décors de l'opéra dans les années 1980. Et donc nous allons proposer à nos visiteurs de pousser la porte du réfectoire et de découvrir un petit peu à la manière d'une caverne d'Ali Baba comment pouvaient fonctionner ces ateliers à l'époque. Alors nous donnerons à voir bien entendu quelques grands décors spectaculaires, les magnifiques toiles peintes avec leur disposition de mise en peinture qui est assez original, et puis notamment beaucoup de beaux objets, notamment des costumes, des perruques, des accessoires, des bijoux, les différents ateliers, la partie conception aussi. Donc voilà, une plongée dans l'univers de la fabrication d'un opéra et de son décor et de tous ses accessoires.
Donc ça c'est en mai, est-ce qu'il y a d'autres événements organisés ?
Pour le couvent des Jacobins, nous avons plus immédiatement, au mois de février, et en lien avec la fête des amoureux du 14 février pour la Saint-Valentin, une soirée thématique dans le cadre de nos visites extraordinaires autour de l'amour, et puis tout le mois de février sur l'amour au Moyen-Âge avec des visites qui auront lieu le samedi à 15h.
Merci Marie Bonnabel pour cet échange. Je précise et je rappelle que vous êtes la directrice du couvent des Jacobins. Tout de suite, on fait une première pause musicale. La deuxième partie de ce Vivante Église sera consacrée à la messe que vous allez vivre dans une demi-heure sur Radio Présence, une messe grégorienne aux Jacobins. Nous en parlerons avec le frère Philippe-Marie Margelidon. Il est le directeur de la revue Thomiste, professeur de théologie dogmatique et président de l'association pour les centenaires de Saint Thomas d'Aquin.
Radio Présence à Lannemezan, 92.2. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai le plaisir de retrouver le frère Philippe-Marie Margelidon, directeur de la revue Thomiste, professeur de théologie dogmatique et président de l'association pour les centenaires de Saint Thomas d'Aquin. Bonjour frère Philippe-Marie Margelidon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Hier ont eu lieu les premières vêpres au couvent des Dominicains de Rangueil. Elles viennent lancer vraiment ces 3 années qui vont être riches en événements. Pourquoi c'était important pour vous de célébrer Saint Thomas d'Aquin ?
Parce que la province de Toulouse a docteur, comme théologien privilégié, pas unique mais privilégié, saint Thomas d'Aquin. Mmh. C'est-à-dire que tous les frères dans la province de Toulouse sont formés à l'école de ce maître.
Mmh. Alors, quel est le lien entre saint Thomas d'Aquin, l'italien, et Toulouse alors ?
Alors, Thomas d'Aquin est un dominicain, je suis dominicain. Et il est devenu très vite, c'est-à-dire dès la fin du XIIIe, début XIVe, le docteur de l'ordre. Mmh. De l'ordre. Mmh. Mais en effet, il n'y a pas de lien direct, au moins au départ, entre saint Thomas et Toulouse. Parce que saint Thomas n'est jamais venu à Toulouse, mais il a été son corps, après avoir été longtemps à Fonsanova où il est mort, chez les Cisterciens en Italie. Le pape a donné le corps de saint Thomas à la ville de Toulouse, qui était une des plus grandes universités françaises avec Paris, qui s'était fait connaître pour les qualités de ces, ce qu'on appelait ses maîtres, maîtres en théologie, et qu'il a voulu que dans cette ville repose le corps de saint Thomas, ce qu'il a été donc depuis qu'Urbain V nous en a fait le don jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Révolution incluse.
Saint Thomas d'Aquin, en quelques dates importantes, c'est quoi ?
1225, 1274, mmh. Naissance présumée, peut-être 1226. 1274, c'est absolument certain. Il a vécu entre l'Italie et la France. Alors, mmh. Certes, tout à l'heure, je disais pas Toulouse, mais il a été plusieurs fois à Paris. Et on peut même, au total, dire qu'il a enseigné plus longtemps en France, à Paris, qu'en Italie, c'est-à-dire à Rome ou à Naples. Mmh. Donc le lien entre la France, entre saint Thomas italien et la France est historique. Et le lien entre saint Thomas et les Dominicains, j'allais dire, est un lien de filiation ou un moins intellectuel. Et le lien entre Toulouse et saint Thomas est un lien de fait, si vous voulez, dit par l'histoire. Mmh. Et enfin, il y a un lien de fait et de droit, je dirais aussi, entre la province dominicaine de Toulouse et saint Thomas d'Aquin. Mais nous ne sommes pas les seuls à nous mmh. revendiquer de saint Thomas. Hein. Il y a d'autres provinces dominicaines qui font comme nous.
Il est présenté comme l'un des plus grands théologiens de l'histoire. Vous êtes
oui.
d'accord avec cette présentation ?
Écoutez, au moins c'est une reconnaissance de fait. Après, mmh. on peut discuter de ses mérites, mais l'Église catholique en a fait son docteur. Il est le seul dont on peut dire qu'il est le docteur communis ecclésiae. C'est le mmh. seul. C'est Pie XI, il y a 100 ans, en 1923, qui a explicitement écrit qu'il était pour toute l'Église le docteur commun. Mmh. Donc c'est le magistère de l'Église qui le reconnaît ainsi. Bon, elle le reconnaît parce que, de fait, si vous voulez, le rayonnement de saint Thomas dès la fin du XIIIe est un rayonnement exponentiel et que, au XIXe siècle, après la secousse révolutionnaire, Léon XIII, en Italie, donc à Rome, a relancé, disons, un dynamisme intellectuel et spirituel, ça va ensemble, dans l'Église en mettant saint Thomas d'Aquin au premier plan, hein, Eterni Patris 1873. Donc saint Thomas a acquis, vous voyez, dès le XIIIe et puis plus récemment à partir du XIXe siècle, une place tout à fait exceptionnelle. Peut-être un peu trop d'ailleurs.
Ah.
Un peu trop, parce que, comme toujours, vous avez le risque, et on l'a vu, quand vous occupez tout le champ, on souhaiterait que d'autres aussi trouvent leur place. Donc, il y a eu une réaction qui est d'ailleurs fort ancienne, qui date avant le 19e, enfin après le 19e ou 20e, une réaction qu'on peut qualifier même parfois d'antitomiste. Parce que, pour de sortes de raisons qui sont bonnes ou mauvaises ici, c'est pas le lieu d'en discuter, mais il était omniprésent et presque un peu trop. Enfin, en tout cas, pour les Dominicains, c'était pas notre cas. Nous, on va pas se plaindre que saint Thomas, on s'en est jamais plaint, je crois vraiment, que saint Thomas occupe cette place prépondérante.
Si on doit résumer en quelques mots la pensée de saint Thomas d'Aquin.
Ben, c'est un théologien, hein, il ne faut pas oublier. La première chose qu'il faut retenir, c'est un théologien dans l'Église, un théologien qui cherche à rendre compte, autant qu'il lui est possible, du donné de la foi, c'est-à-dire de la révélation chrétienne, avec des outils, notamment un outil philosophique particulier qu'il a mis au point et qui fait son génie, quoi. Hein, si vous voulez, il y a peut-être deux grands, peut-être parce que vous me disiez tout à l'heure, saint Thomas, figure de proue dans l'Église catholique, il y en a quand même un avant lui, qui s'appelle saint Augustin, dont il est d'ailleurs saint Thomas lui-même l'héritier. Saint Thomas est à sa façon un augustinien, mais il a mis au point une philosophie, on peut même être plus précis, une métaphysique au service de la théologie qui lui est propre et nous disons, les dominicains, qu'elle n'a pas d'équivalent. Donc c'est ça qui fait l'originalité de saint Thomas et quel est le théologien. Il fait ce que tous les autres théologiens font, hein, il n'est pas le seul, mais il a une manière propre qui a été reconnue donc par l'Église de rendre compte, je prends l'expression qui vient de Saint-Pierre, rendre compte de l'espérance qui habite l'Église. Et pas simplement pour le Moyen-Âge, pour jusqu'à aujourd'hui.
Parlons de la messe qui va débuter dans quelques instants à 10h. Elle aura une forme un peu particulière. Expliquez-nous quelle différence entre la messe que nous allons vivre en direct à la radio et une messe classique.
Alors, on a voulu faire autre chose que ce que nous faisions d'habitude. Alors, il faut faire non seulement du solennel, mais il faut faire de l'exceptionnel. Alors, l'exceptionnel, il se traduit par deux choses. La première, c'est que nous avons donné à saint Thomas d'Aquin un reliquaire qui n'existait plus depuis 1974, c'est-à-dire depuis le transfert des reliques de Saint-Sernin aux Jacobins. Donc un très beau reliquaire qui a été exécuté par Augustin Frison-Roche et Guillaume Piéchaud, qui donc va être tout à l'heure sur l'autel des Jacobins pour la première fois et qui va pendant 3 ans aller à droite et à gauche pour qu'il puisse être vénéré partout où on voudra qu'il le soit. Donc ça sera peut-être la première chose, c'est-à-dire presque matérielle d'exceptionnel tout à l'heure. Et puis la deuxième chose, c'est que pour ces reliques et pour l'événement, pour célébrer l'anniversaire, la 7e centenaire de la canonisation de saint Thomas, donc 1323, le 18 juillet, mais enfin ici ça sera pour saint Thomas le 28 janvier, nous avons voulu que cette messe soit pour la première fois depuis 60 ans grégorienne, en tout cas ça veut dire la messe est en français, mais tout ce qui est le propre et l'ordinaire de la messe soit chantée en grégorien, un grégorien dominicain pour un certain nombre de pièces et un grégorien romain pour les autres. Donc chantée par des laïcs, par un chœur grégorien dirigé par deux personnes, Sylvain Dieudonné et Clarisse Chantelot, que vous connaissez je pense, puisqu'elle dirige le chœur grégorien de Saint-Sernin, une trentaine de personnes en tout avec eux et plusieurs dominicains qui se réapproprient à cette occasion leur patrimoine, puisque c'est un patrimoine de chant grégorien, qui nous appartient. Donc c'est ça, je dirais, les deux choses de réalité exceptionnelle, et donc qui vont donner une tonalité tout à fait nouvelle, au point que il y aura, je pense, nous espérons, beaucoup de monde prêché par Monseigneur Bruguès, qui est lui-même dominicain, Le maire et une partie des membres du conseil municipal seront présents, et d'autres élus, d'autres personnalités. Donc c'est aussi une manière de solenniser par la présence de ces augustes personnes.
Et bien justement, on va en écouter du grégorien pour se mettre dans l'ambiance de cette messe qui débutera dans quelques instants. Je vous propose d'écouter le chœur de l'abbaye Saint-Martin de Ligugé Crux Fidelis.
Oh,
présence à Pamiers, 100.2. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, Vivante Église spéciale à l'occasion de cette messe d'ouverture pour ce cycle de 3 ans qui vise à commémorer les 700 ans de la canonisation de Saint Thomas d'Aquin. Et je suis toujours avec le frère Philippe-Marie Margelidon. Frère Philippe-Marie Margelidon, pourquoi avoir décidé de faire cette messe en grégorien?
Le grégorien, c'est le chant propre de l'Église catholique romaine, hein, faut pas l'oublier, le Concile Vatican II l'a rappelé. Donc il nous a semblé tout à fait normal d'utiliser un patrimoine qui était un peu, je dis pas en déshérence, mais en jachère. Donc on le fait pour la Saint Thomas d'Aquin, on le refera les années suivantes, 2024-2025, et on le fera aussi, surtout à partir de 2024, pour l'Office du Saint-Sacrement, puisque l'Office du Saint-Sacrement a été écrit par Saint Thomas intégralement. Mais évidemment, la mise en musique est plus postérieure. Néanmoins, c'est bien sur un texte de saint Thomas que cet office existe et qu'on le chantera en 2024-2025. Donc ça sera des occasions supplémentaires d'utiliser des pièces de notre patrimoine, qui est en même temps le patrimoine de l'Église catholique, hein, au-delà des dominicains. Ça ajoute à l'exceptionnalité et à la solennité de ces 3 années.
Si on doit présenter le grégorien de manière très succincte, parce qu'on en entend beaucoup parler de ce grégorien, mais où il trouve son origine?
Oh, très très loin. Hein, Alors il y a plusieurs théories là-dessus, je ne vais pas entrer dans le détail des explications qui sont parfois, s'opposent d'ailleurs sur l'histoire du grégorien et sur sa genèse. Disons qu'il remonte peut-être au chant mozarabe, en tout cas c'est un chant sacré, donc peut-être même mozarabe, juif et mozarabe, et puis ensuite s'est mis en place petit à petit dans les lieux de culte, dans les églises et dans les monastères, où on a créé un chant adapté à la liturgie du culte divin. Donc jusqu'à les dernières périodes, c'est jusqu'au 15e, hein, c'est peut-être un grégorien tardif. Et donc les dominicains, 13e, c'est juste avant ce chant grégorien tardif, qui est un peu plus orné que le grégorien bénédictin que l'on connaît, si vous avez déjà entendu Solème, mais qui en est proche. Hein, on n'est pas dépaysé quand on écoute ce grégorien qui vous introduit dans la liturgie. C'est une prière, c'est le grégorien, c'est vraiment le chant propre de l'Église catholique romaine, parce que il donne des ailes à la prière. C'est un chant très intérieur. Donc il présente des qualités que même les musiciens contemporains reconnaissent. Hein. C'est, je pense à Olivier Messiaen, qui a, vous savez, écrit beaucoup de pièces pour le Saint-Sacrement à partir de saint Thomas, et qui expliquait qu'il avait voulu écrire une musique très contemporaine, Olivier Messiaen, en s'inspirant pour un certain nombre de pièces liturgiques du plein chant grégorien. C'était dire que pour des gens qui ne sont pas des passéistes ou des réactionnaires dans le domaine de la musique, combien le plein chant était pour lui inspirant, parce qu'il inspirait l'Église et qu'elle continue de l'inspirer jusqu'à, même après Olivier Messiaen, jusqu'à aujourd'hui.
Autre que ce reliquaire et ces chants grégoriens, est-ce que dans la liturgie ou dans les rites, il y a des choses qui changent ou on assistera à une...
Alors, c'est le déroulement d'une messe solennelle. Alors, ce qu'il y a d'un peu différent, mais on avait déjà quand même vu ça les années précédentes avant le Covid, c'est que la messe se termine par une grande procession avec le nouveau reliquaire. Une procession où on chantera justement aussi des litanies et des pièces grégoriennes durant cette procession, donc dans le cloître à la fin. Donc, du point de vue du format, On peut dire que c'est identique à ce que nous avons connu. Les ingrédients essentiels sont les mêmes, mais la tonalité n'est pas la même, tout à fait la même. Et on y a ajouté, par le chant et par ce reliquaire, quelque chose qui, comme je le disais tout à l'heure, lui donne un caractère exceptionnel.
Vous l'avez dit, cette messe sera suivie de la procession des reliques. On sent que les catholiques sont quand même très attachés aux reliques de manière générale, et encore plus à celle de saint Thomas d'Aquin. Qu'est-ce que ça représente ?
Alors, c'est quelque chose, en effet, qui est très intéressant du point de vue même sociologique. C'est que le culte des reliques est très ancien, il remonte au premier temps de l'Église, avec le culte des martyrs et des restes des martyrs. Alors saint Thomas a toujours fait, depuis qu'il est à Toulouse, depuis qu'Urbain V l'a donné à la ville de Toulouse, il a toujours fait l'objet d'un culte de la part du peuple chrétien, avec des variantes selon ou des variables selon les périodes. Par exemple, pendant la période révolutionnaire, 1790 jusqu'au Concordat, disons, c'était plutôt souterrain. Mais les reliques avaient été conservées, d'ailleurs grâce à un évêque constitutionnel sous la Révolution, à Saint-Cernin, et même à Saint-Cernin, dans cette période-là difficile, il les faisait encore, on a des traces d'un culte populaire. Donc si vous, on dirait qu'aujourd'hui, le culte des reliques est un culte populaire. Et vous allez à Saint-Cernin, vous demandez, puisque ce n'est plus un couvent, c'est un musée, l'église est toujours affectée au culte, mais l'ensemble des Jacobins est un musée, ils vous diront qu'ils remarquent que tous les jours, il y a des gens qui passent pour voir sous l'autel les reliques de saint Thomas et même vénérer saint Thomas.
Ah oui.
C'est dire que ce culte est resté populaire à Toulouse. Alors, ce n'est pas toujours le cas chez les clercs. Les clercs, c'est-à-dire le clergé. Il y a des périodes, il y a des périodes de désintérêt. Par exemple, dans les années 1960, 70 jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'on ait quand même fait beaucoup pour les reliques de saint Thomas. Donc, on s'y réintéresse et on remarque que quand j'ai remarqué moi-même, quand j'ai proposé de conduire les reliques de saint Thomas ailleurs, ça a très bien répondu.
Ah oui.
Dans les diocèses du sud de la France, puisque c'est la diète de la province de Toulouse, c'est tout le sud de la France, j'ai beaucoup de demandes pour saint Thomas. Donc ça m'a même surpris. De communautés paroissiales, de communautés religieuses, monastiques ou non, qui veulent que saint Thomas passe chez eux. Je pense que les gens, pour une partie des gens, savent qu'il y a eu, on a un cas quand même tout à fait révélateur, celui des reliques de sainte Thérèse. Quand elle a voyagé dans toute la France, on en a parlé quand même partout.
Et oui.
Donc là, alors je prétends pas, saint Thomas n'est pas aussi populaire que sainte Thérèse. Mais tout de même, il y a plus que des traces, il y a un véritable culte. Alors, chez les frères, évidemment, les dominicains, c'est sûr que saint Thomas, nous le prions régulièrement, et même à partir de maintenant, d'hier, enfin donc des vêpres, nous invoquons tous les jours saint Thomas d'Aquin.
Merci beaucoup pour cet échange, frère Philippe-Marie Margelidon. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci à Marie Bonabel et au frère Philippe-Marie Margelidon d'avoir répondu positivement à mon invitation. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivante Église. Vivante Église spéciale aujourd'hui en l'honneur de saint Thomas d'Aquin, vous l'aurez compris. Vous retrouvez Isabelle Duché dans quelques instants pour le commentaire de cette messe grégorienne en direct du couvent des Jacobins. Vivante Église revient lundi. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.